Voilà, j'aimerais aborder un petit peu le texte pour une partie cet après-midi. On reviendra aussi sur les sujets, donc en alternant un petit peu les sujets qui sont traités et ce qu'on trouve dans le texte lui-même. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un texte du bouddhisme Mahayana très, très ancien dans le bouddhisme Mahayana, puisqu'il date du début de l'ère chrétienne. Peu près au même moment que les Prajnaparamita. Donc on reconnaît ces textes du bouddhisme Mahayana parce que le décor est un peu différent. Dans les sutras les plus anciens, le Bouddha est assis dans un parc, arrive un moine qui lui pose une question. Il y a quelque chose de très intime, de très petit, si on veut. Alors que là, dans les sutras plus tardifs du Mahayana, on est tout de suite dans un autre décor. On a l'impression que là, la manière dont on décrit ici le lieu, donc le Bouddha est dans un lieu près de Vaishali, vous voyez que ça joue un rôle important. Vaishali, si vous voulez, c'est un peu au nord-ouest de Patna. Dans un lieu particulier, Vaishali, c'était le lieu d'une république en Inde à l'époque du Bouddha. Il y avait des petits royaumes, c'est la seule république, et le Bouddha avait une grande estime pour les gens qui habitaient ce royaume enfin ce royaume, cette république de Vaishali, parce qu'ils avaient une manière de gérer les affaires courantes extrêmement démocratique. Ils discutaient entre eux des divers problèmes. Si quelqu'un était malade, ils allaient tous s'enquérir de la personne qui était malade. Donc il y avait une sorte de manière très communautaire de gérer la vie politique. Et on dit que c'est sur cet exemple-là que le Bouddha a fondé sa communauté monastique. Donc inspiré par cette manière qu'avaient les habitants de Vaishali, qui s'appelaient les Lichavi, ces gens-là, la manière qu'ils avaient de gérer leurs affaires. Donc le Bouddha est dans un parc, tout près de la ville de Vaishali. Et là, il n'y a pas que quelques personnes. On dit, voilà, il y avait 8 000 moines, il y avait 32 000 bodhisattvas. Donc, vous voyez, ça commence avec, en plus, beaucoup de personnes laïques. Il y avait tous les grands dieux de l'Inde. Là, on est vraiment dans un décor, assez impressionnant. Donc, il est ici placé dans ce lieu particulier parce que Vimalakirti, on verra que c'est le personnage principal, c'est dans le fond lui qui parle. Dans ces sutras plus tardifs du bouddhisme Mahayana, souvent le Bouddha est là comme prétexte qui fait parler quelqu'un d'autre mais qui ne parle pas vraiment lui-même. Dans les Prajnaparamita, c'est souvent Avalokiteshvara qui parle, et on a souvent un des grands disciples du Bouddha dans le bouddhisme primitif, comme Shariputra ou Subhuti, qui eux posent les bonnes questions. On aime toujours bien quand il y a des gens qui sont brillants, qui savent poser les bonnes questions. Et puis, dans les Prajnaparamita, ça peut être Avalokiteshvara qui répond. Et dans ce sutra-là, ça sera évidemment Vimalakirti qui va répondre à ces questions. On verra d'ailleurs comment ça se passe. Donc, Vimalakirti, c'est dans ce sutra-là, mais il n'a jamais existé, Vimalakirti. Ce n'est pas un personnage voilà, qui aurait été historique. Il n'a pas existé au temps du Bouddha. Il apparaît comme habileté dans ce sutra pour être l'interlocuteur. Et il est lui-même un personnage qui est intéressant parce qu'il est insaisissable. On lui donne des qualités qui sont contradictoires. Il est toujours entouré de sa femme, de ses enfants, d'un harem, et pourtant, il vit dans la solitude, dans le célibat. Donc on a plein de descriptions comme ceci qui sont contradictoires, qui fait que dans le fond, on ne peut pas saisir ce personnage-là. Et comme on l'a vu ce matin, le fait que lui-même soit un personnage pas saisissable, c'est tout à fait en accord avec ce qu'il va enseigner, puisqu'il enseigne ce qui n'est pas saisissable. Donc le sutra, de manière pas totalement cohérente, mais d'une manière très intéressante, le décrit déjà comme un personnage qu'on ne peut pas séduire, on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Il vit toujours dans la solitude, mais il est toujours entouré de tellement de servants et de servantes. Donc on ne sait pas exactement qui il est. On pourrait dire que correspondra à personnage de roman contemporain qu'on ne pourrait pas saisir. Néanmoins, donc il est un Lichavi de cette cité de Vaishali, et dans la tradition bouddhique, c'est le seul personnage laïque qui a une importance aussi grande. Autrement, ce sont soit les moines, les grands disciples du Bouddha, soit les bodhisattvas, mais on n'a pas deux personnages laïcs qui jouent un rôle aussi important que Vimalakirti. Une exception, et c'est ce qui fera aussi qu'en Chine, il aura beaucoup d'importance, ce sutra de Vimalakirti, il a beaucoup d'importance parce que quand les lettrés ont été déçus par le pouvoir de l'empereur et autres, quand il y a eu quand même pas mal de périodes de troubles en Chine, eh bien beaucoup de lettrés se sont retirés et ne voulaient pas nécessairement être moines, ils ont eu comme image... comme saint patron, si vous voulez, c'était Vimalakirti. Donc ils ont vraiment pris ce symbole de Vimalakirti comme étant pour eux l'idéal du laïc éveillé, puisque là on dit que c'est un bodhisattva. Donc la manière dont on pose le décor ici, c'est à Vaishali. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont là, tous les plus grands personnages, les plus grands disciples du Bouddha, les plus grands bodhisattvas. Et puis, il manque une personne dans cette grande assemblée. Vous voyez que même s'il y a beaucoup de monde, on reconnaît quand même quand il manque une personne. Et la personne qui manque, c'est Vimalakirti. Alors, Vimalakirti, il ne peut pas être là parce qu'il est resté dans sa maison. Il prétend être malade. Et alors, le Bouddha va demander, il va dire, mais enfin, il va demander à ce que quelqu'un aille s'enquérir de la santé de Vimalakirti. Aller dans sa maison pour s'enquérir, et il va demander à ses plus grands disciples, on pourrait presque dire même dans un ordre hiérarchique, et tous vont dire, je ne peux pas aller voir Vimalakirti pour m'enquérir de sa santé, parce que, voilà, ils vont raconter ce qui s'est passé pour eux, dans le fond, ils ont été mis en boîte par Vimalakirti, donc ils n'ont pas envie de retourner là-bas, ils ont peur d'être mis en boîte. Et chacun va raconter comment il a été mis en boîte et pourquoi, d'une certaine manière. Donc le premier qui est envoyé là-bas, c'est Sariputra. Alors Sariputra, c'est vraiment le disciple le plus brillant du bouddhisme primitif. Le Bouddha dans un sutra dit, si je questionne Sariputra sur le Dharma pendant un jour, il peut me répondre pendant un jour. Si je le questionne pendant un jour et nuit, il me répondra pendant un jour et nuit. Pendant 7 jours, il me répondra pendant 7 jours. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui connaît bien la doctrine. C'était un des piliers de l'enseignement du Bouddha. Et donc c'est le premier disciple qui est requis d'aller s'enquérir de la santé de Vimalakirti. Et puis il dit non, moi je ne peux pas y aller. Voilà. Il dit alors qu'un jour je méditais au pied d'un arbre, alors est arrivé le Vimalakirti qui a passé par là, et puis il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là à méditer au pied d'un arbre? Il dit, ta conscience, il ne faut pas la placer ici, ni là, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Il dit, il faut la placer nulle part. Qu'est-ce que tu recherches dans cette méditation-là? Il dit, comment tu veux accéder au nirvana en essayant d'abolir les émotions négatives? Et il se place dans l'ultime, hein, on l'a vu ce matin. Pour lui, toute cette manière de croire qu'on pourrait, au moyen d'une gestion du conditionné, atteindre l'inconditionné, il va mettre tout le monde en boîte en disant, vous attachez à l'inconditionné en croyant que ceci vous mène au conditionné, croyant que ceci vous amène à l'inconditionné, ça ne joue pas. Donc Vimalakirti va toujours parler de ce point de vue-là en disant, vous vous accrochez à des choses qui sont des obstacles même, en croyant que ceci vous aide à vous libérer, ceci même vous enferme. Donc il dit à Sariputra, donc ça sert à rien d'essayer de méditer, de dompter ton esprit pour qu'il soit plus troublé par les émotions, etc. Ça sert à rien du tout. Ça veut dire que tu crois dans l'existence. C'est comme un mensonge. Tu crois dans l'existence de ces émotions qui sont troublantes. En voulant les éliminer, tu crois qu'elles existent réellement. Donc tu ne fais, dans le fond, que perpétuer une vision complètement fausse. Alors Sariputra dit, non, moi je suis désolé, mais je ne vais pas aller m'enquérir de la santé de Vimalakirti. Alors bon, on va pas passer tous les disciples qui sont envoyés. Alors un autre, c'est Kāśyapa, aussi un des grands disciples du Bouddha. Et Kāśyapa, lui, il avait l'habitude d'aller mendier dans les quartiers pauvres. C'était une sorte de générosité, parce qu'en allant mendier dans les quartiers pauvres, évidemment on reçoit moins de nourriture, mais on donne l'opportunité aux pauvres d'aussi pratiquer l'aumône. Et ça c'était important, alors qu'évidemment un moine un peu moins éclairé que Kāśyapa irait plutôt dans les quartiers riches pour avoir de la bonne nourriture. Je me souviens, quand j'ai vécu dans le monastère en Thaïlande, on était tout près du palais royal, la nourriture était drôlement bonne. Parce qu'évidemment, les gens venaient en voiture pour redonner au monastère. Il y avait des petits monastères dans les banlieues qui, eux, évidemment, ils avaient une moins bonne nourriture. Donc on comprend bien que là, Kasyapa, c'était une sorte de geste d'humilité que d'aller mendier dans les quartiers pauvres. Mais il dit, moi, je ne veux pas aller m'enquérir de la santé de Vimalakirti, parce qu'un jour que je mendiais dans les quartiers pauvres, Vimalakirti m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais une différence entre les riches et les pauvres? C'est quoi ces histoires d'avoir des préférences? Il dit, mais il n'y a aucune différence. Riche ou pauvre, c'est des apparences. En t'attachant à aller seulement mendier dans les quartiers pauvres, tu t'attaches à la confusion, tu t'attaches à une vision du monde qui est complètement fausse. Donc Kasyapa n'a pas envie non plus d'aller. Ensuite, il demande, j'en passe quelques-uns, il demande à Upali. Upali, c'est un personnage intéressant. Upali, c'était le barbier des cousins du Bouddha. Donc, on dit que le Bouddha était un prince dans la région du nord, de ces royaumes-là. Et quand les cousins du Bouddha ont voulu aussi entrer dans l'ordre monastique, ils ont décidé que le barbier entrerait avant eux, parce que dans l'ordre monastique, on doit le respect à celui qui a été ordonné moine avant. Même si c'est une heure avant ou un jour avant, c'est lui qui a la préséance. Donc les princes se sont dit, eh bien, on va le laisser lui être ordonné avant, comme ça, on lui devra respect. Donc Upali est entré, c'était ce barbier donc est entré dans l'ordre monastique, et c'est lui qui est le garant du respect des règles de moine. On dit même que tous les enseignements donnés par le Bouddha qui concernent les règles de moine, donc le Vinaya, a été recueilli par Upali. On a en Birmanie une statue dont j'ai déjà parlé. On voit un moine qui a la main dans un bol et qui regarde le soleil, parce qu'un jour qu'il était en retard pour finir sa nourriture, il a arrêté le soleil pour pouvoir finir son repas, puisqu'il faut qu'il soit terminé avant que le soleil ait traversé le milieu du ciel. Donc Upali avait arrêté le soleil pour pouvoir terminer son repas. Donc il avait un grand soin des règles monastiques. Alors le Bouddha lui dit, alors va t'enquérir de la santé de Vimalakirti. Il dit non, je ne peux pas. Parce qu'un jour, alors que deux petits moines avaient manqué aux règles de moi, donc avaient fait des erreurs et que je leur expliquais, je faisais une remontrance à ces moines-là, est arrivé Vimalakirti, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de semer la confusion dans ces jeunes moines, etc. Parce que ils ne sont pas sous l'emprise de la confusion, parce que la confusion, elle se trouve ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni entre les deux. La conscience, elle n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni entre les deux. Qu'est-ce que tu amènes la confusion dans ces jeunes moines en essayant de leur donner des remontrances parce qu'ils n'ont pas respecté parfaitement les règles de moine? Donc moi, je ne vais pas aller chez Vimalakirti. Finalement, quand il a passé quand même pas mal de personnages, des bodhisattvas, les grands disciples, il y a un personnage qui accepte d'aller, qui est à la hauteur de la situation, il n'y en a qu'un, et c'est Manjushri. Manjushri, c'est le bodhisattva de la sagesse. Donc on se rend compte que lui doit être à la hauteur. C'est pas possible que, alors, si on trouve la confusion chez Manjushri, là on commence à avoir des problèmes. Donc Manjushri dit, bon, là, d'accord, je veux bien y aller. Et tout le monde l'accompagne, parce que tout l'assemblée va accompagner Manjushri, parce qu'ils se disent ça va être une rencontre extraordinaire, quoi. Il va y avoir Vimalakirti et Manjushri qui vont se rencontrer. Vimalakirti, donc lui, il est sur son lit. Il a fait disparaître tous les meubles. Il n'y a plus rien dans sa maison. Je voulais qu'on enlève tous les coussins et autres là pour faire comme chez Vimalakirti. Je me suis dit, mais bon, on est quand même mieux assis, et puis on n'a pas les mêmes pouvoirs magiques. Mais donc il a fait le vide, et quand finalement, alors Manjushri peut s'approcher, il salue Vimalakirti, il fait son éloge à nouveau. Il commence dans un des chapitres à faire l'éloge de Vimalakirti, en montrant que vraiment il est sage parmi les sages, qu'il n'y a aucune confusion, etc. Donc ils se souhaitent la bienvenue, ils sont très cordiaux. On a presque même l'impression que Manjushri il a un traitement de faveur, là, mais bon. Et à ce moment-là, il va y avoir cette discussion entre Manjushri et Vimalakirti approfondir le sens du dharma. Mais quand ils arrivent, le Sariputra qui est venu avec lui, alors Sariputra, il regarde, puis Sariputra, c'est vraiment un disciple tellement touchant. D'abord, il est brillant, mais il a toujours un sens de la communauté. Donc, il arrive dans cette maison, puis il se dit, mais c'est quand même terrible, il n'y a aucun siège. Où c'est que toute cette noble assemblée va pouvoir s'asseoir, et tous ces bodhisattvas, il faudrait quand même qu'ils s'assiedent quelque part, et regarde. Et Vimalakirti, qui peut lire dans son esprit, lui dit, moi, t'es venu quoi? T'es venu pour les sièges ou pour le dharma? Pourquoi t'es venu là, quoi? Je veux dire, de quoi tu t'occupes? Donc à nouveau, il en prend pour son grade, le pauvre, même s'il était vraiment concerné dans le fond par toute l'assemblée. Et constamment, on va voir que Sariputra se prête presque à ce jeu. Il est là pour poser des questions d'une certaine manière naïve, voire l'attitude naïve qui permet à Vimalakirti de remettre les choses en place. Je voudrais juste évoquer un des points essentiels dans cette rencontre entre Manjushri et Vimalakirti, c'est que Manjushri demande à Vimalakirti, il lui dit comment est-ce que on accède à la sagesse qui amène à la libération? Comment est-ce qu'un bodhisattva, comment est-ce qu'un être, évidemment, assez brillant, peut accéder à cette sagesse qui est libératrice. Voilà. Donc là, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il va dire, comme on a parlé ce matin, tout le chemin graduel, ben, il fait ceci, 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 qu'est-ce qu'il lui dit? Et donc c'est là que le langage de ce texte-là est assez exceptionnel. Il lui dit, c'est en suivant les faux chemins qu'il arrive à son but. Non, en suivant les faux chemins. Et là, donc, la traduction qu'on a en français de la motte est bien claire. Il explique d'ailleurs que le terme qui dit faux chemin, c'est un terme qui met un A simplement devant le terme. Il montre bien que cette manière, ce n'est pas le dire un non-chemin, mais c'est un faux chemin. C'est en suivant les faux chemins qu'il arrive à l'éveil. On peut se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut prétendre que en suivant les faux chemins, on parvient à l'éveil? Parce que justement, de poser un vrai ou faux chemin, on est déjà dans le conditionné. Donc à ce moment-là, on se perd. Dès qu'on commence à opposer vrai et faux chemin, on est complètement perdu. Donc en suivant les faux chemins, il continuera dans ce chapitre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'adhère à rien. Il n'adhère ni à bon ou vrai chemin, ni à faux chemin. Et il continue, Vimalakirti, en disant, mais c'est en cultivant les passions, c'est-à-dire qu'il fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas qu'il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est que pour lui, ces choses-là n'ont pas de réalité. Pour lui, en cultivant les passions, etc., le désir, la haine, il les cultive sans les cultiver. C'est-à-dire que si ces choses-là le traversaient, pour lui, elles n'ont pas d'existence réelle. Rappelez ce qu'on a dit, donc pour l'inconditionné, il se place du point de vue de l'inconditionné, ce qui fait qu'il n'y a pas de différence, il ne se laisse pas prendre dans ceci. Donc c'est de cette manière-là qu'il peut aborder en se plaçant dans le fait qu'il y a rien à faire. On a vu, faire quelque chose, ça serait s'attacher au conditionné qui devrait, quand on l'organise, déboucher sur l'inconditionné qui est absurde, c'est pas une possibilité. Donc j'ai vu certaines traductions qui semblaient éviter complètement ce côté provoquant. Vu la Kirti, il est immensément provoquant. Disons, c'est en suivant les faux chemins qu'on atteint l'éveil. C'est quand même un peu provocant, alors que j'ai vu une traduction dit c'est en suivant le chemin du non-éveil qu'on atteint l'éveil. On a l'impression qu'on a bien dilué le tout et que ça reste un peu. Donc de cette manière-là, on a quelque chose d'extrêmement important. Donc il met dans ce sens-là, il met en question l'approche traditionnelle qui voulait que c'est en accumulant un petit peu les causes et conditions qu'on pourrait arriver à la libération, à nouveau comme on l'a mentionné ce matin. Mais là, on est quand même devant une certaine difficulté parce qu'en se plaçant de cette manière absolue, comme ceci, c'est en suivant les faux chemins qu'on atteint l'éveil. Faut pas que ça tombe dans la bouche des enfants, quoi, dans l'oreille des enfants, parce qu'à ce moment-là, ça donne quoi? Je veux dire, on croit qu'on peut faire n'importe quoi, en se comportant de manière complètement irresponsable et en faisant n'importe quoi, ceci n'aurait pas d'impact. Vous voyez la difficulté? On comprend très bien que si on veut parler de liberté inconditionnée, eh bien, on ne peut pas la bricoler. Mais si on commence à dire des choses comme Vimalakirti ici, comme certains textes zen le disent aussi, on commence à dire, eh bien, c'est en pratiquant le faux chemin qu'on atteint l'éveil, alors on risque aussi de conduire les gens dans une profonde confusion. Donc là, il y a quand même quelque chose à mettre en place. Et c'est là que dans la tradition bouddhique, on a été obligé de faire une distinction en deux niveaux de réalité, un niveau conventionnel et niveau ultime. Parce que sans cette distinction-là, à ce moment-là, on s'y retrouve plus. On n'arrivera plus à essayer d'expliquer un comportement qui a une certaine qualité si on ne fait pas cette distinction entre niveau de réalité absolue et conventionnel. Donc niveau de réalité absolue, ça veut dire qu'est-ce qui reste en dernière analyse quand on questionne des phénomènes, quand on questionne des événements, qu'est-ce qui reste qui n'est pas questionnable? Si on prenait un exemple dans la physique, en prenant les choses toutes simples, sans aller dans toutes les subtilités, on pourrait dire, ben voilà, le bois, il est fait de molécules, les molécules sont faites ensuite d'atomes, et puis les atomes de protons, de neutrons, ben on dirait, voilà. À certains moments de l'histoire de la science, on dit, ben voilà, ce qu'on a trouvé d'ultime, c'est les protons, les neutrons, on ne peut pas aller au-delà. Donc là, on dirait, voilà, ce qui existe finalement, de quoi est fait la nature dans laquelle nous vivons, ben, l'effet de neutrons et de protons, même si on a dépassé ces niveaux-là. Eh bien, ce qui existe ultimement, ce qui est du ressort de la réalité ultime, c'est qu'est-ce qu'on trouve au-delà de quoi on ne peut pas aller. Alors le bois, on voit bien que ce n'est pas ultime, puisqu'on arrive aux atomes. Et qu'est-ce que la vérité conventionnelle? C'est ce qui, justement, n'existe pas en soi-même, ce qui disparaît quand on le questionne. Ben, on pourrait dire que le bois, il disparaît dans la composition des molécules, etc. Donc ça n'existe pas de manière ultime, comme éléments qui construisent le monde dans lequel on est. C'est simplement une manière de considérer un ensemble de phénomènes. Et la tradition ancienne, elle posait comme qu'est-ce qui existe ultimement, qu'est-ce qui existe au-delà de quoi on ne peut pas aller dans l'analyse. Eh bien, pour la tradition ancienne, il y avait quatre éléments qui existaient ultimement. C'était la conscience, c'était les facteurs mentaux, les quatre grands éléments qui sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Une manière aussi de placer un peu les atomes, bah, c'était le fluide, ce qui bouge, etc. Et puis le nirvana. Voilà les quatre phénomènes qui existent de manière ultime. Les trois premiers, la conscience, les facteurs mentaux, les quatre éléments, sont des facteurs ultimes qui sont conditionnés, qui dépendent d'éléments, mais on ne peut pas trouver des éléments constructeurs de la conscience au-delà d'un instant de conscience. Les facteurs mentaux sont l'attention, la concentration, la joie qui peut être éprouvée dans une certaine expérience. Donc tout ce qui accompagne, qui donne certaines caractéristiques d'un moment de conscience. Si on perçoit quelque chose, il y a la conscience visuelle, et puis il peut y avoir ce qui accompagne ceci, il peut y avoir une certaine joie à voir ceci, il peut y avoir de l'attention. De la concentration, du désir, ah, tiens, j'ai bien envie de prendre cette roue de la vie. Donc, il peut y avoir. Tout ceci sont les facteurs mentaux. Donc, on peut pas. Ces facteurs mentaux ne sont pas créés d'éléments au-delà, qu'on pourrait trouver au-delà de ces facteurs mentaux. Donc, les quatre éléments, les éléments qui constituent la base de tout élément matériel. Donc, on arrive à quelque chose. Il y a, si vous voulez, pour eux, des sortes d'atomes. Et puis le nirvana, évidemment, est ultime dans le sens où il n'est pas fait d'autres éléments, il n'est pas conditionné. Alors, des événements conditionnels, qu'est-ce qui existe de manière conditionnée? On va prendre un exemple un peu amusant, c'est le cheval, par exemple. Évidemment, le chien et tous les autres animaux. Mais pourquoi? Je dis ça parce qu'on débattait quand j'étais à l'école de dialectique sur qu'est-ce que le cheval. Ben, le cheval, il est fait, évidemment, d'éléments corporels. Il a aussi une conscience, etc. Donc le cheval, il est conditionnel dans le sens où c'est un élément. Il n'y a pas d'atome de cheval. Tiens, il y a un atome de cheval, etc. C'est quelque chose qui dépend de tout un ensemble. Et on. Tout phénomène qui est composé de beaucoup d'autres phénomènes, il sera dit existant de manière conventionnelle ou relative. Donc on pose ici, dans le bouddhisme ancien, quatre éléments qui existent ultimement, tout le reste étant composé, étant des manières de parler de choses composées. Et ce que nous abordons dans la méditation, dans notre vie personnelle, c'est exactement ce questionnement-là. Est-ce qu'on arrive dans la méditation, à ne pas s'attacher à ce qui est relatif, c'est-à-dire pour découvrir ce qui existe ultimement, les éléments de conscience, les moments de conscience, les quatre grands éléments qui seraient une manière d'éprouver les sensations corporelles comme lourdeur, comme chaleur, etc. Où est-ce qu'on s'attache à un concept qui est mis sur l'expérience? Donc là, je parle un petit peu du concept pour qu'on comprenne un petit peu où on se situe. Je me rends compte qu'il faut toujours que je place un peu des éléments pour qu'on puisse avancer dans ce questionnement. Pour le faire en distinguant, dans le fond, la conscience et la connaissance. Donc cette distinction entre conscience et connaissance est quelque chose de fondamental pour comprendre comment la méditation se déroule. Et quand on croit que dans la méditation, il s'agit pour nous de différencier ou de connaître quelque chose, de reconnaître, à ce moment-là, on se bloque et on ne peut pas approfondir la méditation. Donc cette distinction de conscience et de connaissance qui est souvent un élément qu'on oublie de faire pour comprendre un peu en quoi consiste la méditation, on pourrait dire que le terme connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est quelque chose évidemment que nous développons dès la plus tendre enfance, cette capacité à reconnaître, à nommer les choses. On passe un temps immense. Les parents, surtout la mère, passent un temps immense à nommer les choses, pour les reconnaître. L'enfant apprend à nommer ceci, cela, puis on est tout content quand il arrive à se rappeler que ceci et ceci, il donne les noms justes sur les choses, c'est extraordinaire. C'est une bonne chose d'ailleurs pour encourager l'enfant, mais on a l'impression que ceci est fondamental dans notre éducation, parce que ça nous apprendra aussi à discerner ce qui est utile du nuisible, ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas. Donc le fait de reconnaître les éléments, ceci est fondamental. Donc de connaître ceci, de connaître les noms. Et qu'est-ce que c'est que de connaître un nom? Dans le fond, c'est c'est mettre un concept sur quelque chose. Et le concept, c'est une chose générale qui doit être générale, autrement le langage ne serait pas possible. S'il y avait un nom spécifique pour chaque chien, par exemple, on en a déjà pas mal, mais ensuite, même si on parlait, je ne sais pas, d'un type de chien particulier, eh bien, il faudrait encore dire, mais quand il est grand, quand il est petit, quand il est brun, quand il est blanc, et quand il regarde de ce côté-là, et quand il regarde de ce côté-là. Pourquoi voudrait faire cette distinction? Parce que on voudrait s'appliquer à cette expérience-là. Donc les concepts, les noms sont génériques, le terme chien pour pouvoir s'appliquer à tellement d'animaux différents, et on ne se trompe pas. Il y a peut-être quelques limites où on pourrait se tromper, mais en général, on ne se trompe pas. On arrive à mettre sous le même concept des animaux qui sont vraiment extrêmement différents. Donc ce qui veut dire que le terme chien, lui, ben, est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il s'applique aux chiens qui sont blancs, bruns, noirs, petits? Non, il s'applique à tout le monde. Donc le fait de connaître est toujours une transposition, transposition d'un événement, d'un objet, etc. Transposition dans quelque chose qui peut être gardé à l'esprit. Une transposition qui doit être suffisamment générale pour que justement on puisse se comprendre. Parce que si moi je comprenais que le terme chien, et que pour moi un chien c'est un animal blanc, et que pour une autre personne un chien c'est un animal noir, on aurait de la peine à communiquer. Et quelquefois, on rencontre ceci dans la discussion avec une personne, on a une vision d'un phénomène comme ceci, l'autre d'une autre manière, puis on a de la peine à se comprendre parce qu'on a limité le sens de ceci. Donc, lorsqu'on a des expériences, comme voilà, la vision, toujours la vision d'un coucher de soleil, vision d'un coucher de soleil, on ne peut pas le garder à l'esprit. Il disparaît, il s'en va d'instant en instant, et puis voilà, il a disparu. Mais qu'est-ce qu'on garde à l'esprit? On garde à l'esprit une image de ceci, ce qui fait qu'on peut s'en souvenir. Donc la connaissance est toujours la transposition de quelque chose qui est insaisissable, d'une expérience sensorielle, etc. Une transposition dans quelque chose qu'on peut garder à l'esprit. Et ce qu'on garde en mémoire, eh bien c'est ces transpositions et jamais les phénomènes eux-mêmes. Cette transposition qu'on garde à l'esprit. Et ces transpositions, on peut les organiser ensuite, on les organise, on peut les mettre les plus petits, les plus grands, les petits animaux, les grands animaux. Donc après, on fait toutes des organisations extraordinaires, on reste toujours dans l'ordre de la transposition, c'est dans l'ordre du concept. Donc connaissance nécessairement veut dire transposition, une manière de saisir quelque chose. L'exemple que j'ai donné avant, quand on entre dans la salle ici de méditation et qu'on a l'impression qu'on est toujours dans la même salle, c'est cette transposition que la connaissance fait. C'est juste, on connaît cette salle-là. Si on en restait uniquement à chaque moment de perception, à chaque pas, ça serait quelque chose de différent. S'il n'y avait pas cette transposition, eh bien, on n'aurait même pas le sentiment qu'on est dans la même salle. On n'aurait pas construit ce terme salle de méditation. Donc, le fait qu'on traduise en connaissance les éléments ici, les données sensorielles, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement utile. Connaissance, toujours transposition, la connaissance est toujours basée sur un concept ou une image mentale. Mais ça devient un petit peu compliqué quand tout d'un coup on confond la transposition avec ce dont c'est la transposition. Alors cette salle de méditation, on croit que c'est ce qu'on voit alors que c'est ce qu'on pense. Mais si on en revient à la vision elle-même, on verra que la vision à chaque instant est différente. Donc cette transposition qui donne un élément de stabilité, qui se substitue au vécu immédiat, cette transposition, lorsqu'elle n'est pas prise en considération, elle est la source de la confusion. Quand on parle dans la deuxième vérité, que ce qui nous conditionne, ce qui nous enferme, c'est l'ignorance. Et bien cette ignorance, c'est exactement ce qui fait qu'on prend la transposition, la traduction pour la réalité. Et quand on croit qu'on a affaire à la réalité alors qu'on a affaire à la traduction, transposition, à ce moment-là, ceci nous enferme dans ce qu'on appelle le samsara. Donc l'existence conditionnée dans laquelle on est enfermé, elle n'est pas faite de notre existence humaine, du jour à la nuit qui passe, du temps, etc. Ce qui fait les barreaux de cette prison du samsara, c'est la transposition concept des expériences immédiates. Donc la connaissance est, ici c'est conceptualisation, cette connaissance, cette conceptualisation est la nature du monde dans lequel nous sommes enfermés. Et on voit bien, c'est bien parce que nous sommes responsables de cette transposition que nous avons aussi la clé de notre liberté. Parce que si nous n'étions pas responsables de ceci, alors nous n'aurions pas la clé de notre liberté. Donc, on peut dire d'une certaine manière que l'ultime est ce qui est avant transposition, et le relatif est ce qui est le fruit de la transposition. Est relatif tout ce qui est une transposition qui dépend de ce pouvoir de transposer, est ultime ce qui ne dépend pas de cette transposition. Alors on se rend compte aussi qu'une transposition peut être juste ou fausse. Quelqu'un pourrait venir et croire qu'il entre dans une salle de billard et il entre et puis il dit, il y a quelque chose qui joue pas ici. Voilà, la première entrée était une confusion, ou bien on voit quelqu'un venir au loin, on dit tiens, c'est lui ou c'est elle, puis la personne s'approche, ah non, c'est pas lui ou c'est pas elle, je me suis trompé. Toute transposition, elle peut être une erreur puisque c'est une transposition. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours fautive, mais elle peut être, c'est dans sa nature d'être une erreur puisqu'elle est transposition. Alors que dans l'aspect au vécu lui-même, qui n'est pas une transposition, on ne peut pas se tromper. Hein? On ne peut pas croire qu'on voit si on ne voit pas, qu'on entend si on n'entend pas. Peut-être je me trompe sur la personne que je vois, mais le fait de voir ici, je ne me trompe pas, ni le fait d'entendre, même si je me suis trompé sur l'origine du bruit. Donc, ultime avant transposition, conventionnel après transposition, et ce monde qui existe après transposition, eh bien, il est aussi à respecter. C'est pas, il est pas, il n'a pas le même statut d'existence, mais il est quand même celui avec lequel on joue, celui dans lequel on se meut, celui dans lequel on agit. Donc on ne peut pas simplement de vouloir être que dans l'ultime. Si on s'attachait à cette phrase de Vimalakirti en disant c'est en suivant les mauvais chemins qu'on atteint l'éveil, il le place dans l'ultime et il a raison parce qu'à un moment donné, même dans la méditation, si on voulait s'attacher au conventionnel, à ce moment-là, on ne pourra pas dépasser ce niveau-là. Mais il s'agira quand même aussi de respecter le conventionnel. Dans un des chapitres, Vimalakirti dit la sagesse sans la compassion, ici voudrait dire sans le côté relatif, est emprisonnement. La sagesse sans le côté relatif est emprisonnement. Le relatif sans le côté de la sagesse est emprisonnement. C'est bien les deux ensemble qui font qu'il peut y avoir liberté. Pour être attaché à l'ultime, si vous voulez. Donc on comprend ces deux niveaux. Le niveau du relatif est ce qui est accédé ou ce qui dépend de la connaissance. Le niveau ultime avant les concepts est ce qui dépend de la conscience. La conscience, elle, est ce qui a conscience de, pour ainsi dire, de l'ultime, où l'ultime va être connu par la conscience avant qu'il y ait transposition en connaissance. Donc il s'agira dans la méditation de ne pas s'arrêter sur les transpositions que fait la connaissance, mais d'essayer de rester avant cette transposition-là, ce qui veut dire pas dans une inconscience, pas qu'il n'y se passe rien, qu'il y ait conscience, mais qu'on élabore pas sur la nature de ce vécu. Donc lorsque nous méditons, voilà, on entend un son, on a parlé de l'audition ce matin, alors j'entends la voiture, j'entends ceci, j'entends cela, donc ici on est dans la transposition, qui peut être juste, c'est juste, c'est vraiment une voiture qui a passé, mais en fait ce qu'on a entendu c'est pas une voiture, parce que la voiture c'est pas un son, ce qu'on a entendu, si vous voulez, c'est le bruit de la voiture, donc en revenant de manière plus proche dans l'expérience elle-même, sans se battre contre la transposition, mais sans s'y attacher, sans s'y arrêter, c'est pas ce qui nous intéresse. On a compris que c'était le bruit d'une voiture, ben, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est quel est ce vécu avant cette transposition. Donc je suis là dans l'audition elle-même, et il y a juste cette expérience auditive, conscience de quelque chose, conscience du son, conscience d'entendre. Et à ce moment-là, je suis dans cette conscience qui est un des aspects ultimes. Il n'y a pas de transposition, il ne peut pas y avoir d'erreur à ce moment-là. Voilà comment, ici, dans la méditation, on essaie de ne pas s'arrêter au conventionnel, au relatif, pour rester dans quelque chose qui est ultime. De la même manière, on va garder ce contexte-là. De la même manière, dans les sensations corporelles, ce n'est pas le genou que je sens, ni le dos. Ce n'est pas une douleur ou une tension que je sens, mais c'est une qualité de lourdeur ou de température qui sont liées à ces quatre éléments. En général, les quatre éléments, il y a toujours un dosage, un mélange. Donc je ressens cette sensation dans l'immédiateté. Si je ne l'interprète pas, ni par l'image du corps, ni autre, je suis dans une expérience ultime. Conscience corporelle de cet aspect-là. De même dans la pensée ou les facteurs mentaux, si je reste là sans m'y accrocher, sans conceptualiser, je pourrais aussi être dans l'expérience de la pensée ou de la conscience au niveau ultime avant de l'avoir transposée dans un élément que je saisis par la connaissance. Donc on voit bien ici que la méditation, ici je suis revenu un petit peu au système plus ancien, le système selon lequel nous pratiquons. On voit bien que ce qui nous intéresse quand même, c'est ce qui existe au niveau ultime, qui ne dépend pas de transposition, parce qu'il quand il n'y a pas de transposition, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et comme je ne suis pas dans cette transposition-là, je ne suis pas enfermé dans cette construction que représente la transposition. Donc ce que nous cultivons dans la méditation, c'est la conscience et non pas la connaissance. Et très souvent, on parle d'une émotion, là il y a de la tristesse, et on dit si on est vraiment, vraiment conscient de la tristesse, elle n'est pas un problème, ce n'est pas une difficulté, elle n'est pas triste, elle n'est pas lourde. Et dans la pratique, on se dit c'est pas normal, j'ai reconnu que c'est de la tristesse, et dans le fond, c'est aussi pesant qu'avant, j'ai reconnu qu'il y a de la fatigue ou de la somnolence, et c'est aussi contraignant qu'avant. Donc, c'est où le problème? Alors qu'on a dit, si on est conscient de ce qui se passe, à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Parce que si, je prends l'exemple de la somnolence, un des facteurs mentaux, si la somnolence, je reconnais, tiens, la somnolence, je reste au niveau de la transposition. J'ai un concept somnolence, voilà, qui voile cette expérience-là, je sens bien qu'il y a un manque de tonus et autres, mais je m'arrête au niveau de la reconnaissance, du fait de nommer, et je crois que le fait d'avoir nommé l'expérience est l'accomplissement de la tâche méditative. Et c'est pas ça. Ça, c'est le fait de s'arrêter en chemin. C'est vrai que c'est bien que j'ai reconnu que j'ai de la somnolence, plutôt que de ne pas me reconnaître et me battre là contre. C'est une première étape. Mais après, il s'agit de s'ouvrir pour dire qu'est-ce que c'est que cette expérience de la somnolence pour revenir à cette conscience, cette qualité de conscience particulière qu'on appelle somnolence. Donc toute la méditation vise de passer du niveau relatif au niveau ultime pour avoir accès à la réalité, pour se libérer de cet enfermement dans lequel nous nous posons, en étant au monde, au domaine de la, au niveau de la transposition que l'on prend pour le monde avant transposition. Maintenant, il va y avoir des distinctions. C'est qu'ici, on a parlé de qu'est-ce qui existe en dernière analyse. On a parlé des quatre éléments, on a parlé de la conscience, des facteurs mentaux. Voilà ce qui existe. Bon, le nirvana aussi. Mais là, il y aura des distinctions dans les différentes approches bouddhiques où certains diront non, finalement, ça, c'est pas ultime. On verra par la suite que, dans le fond, la pensée, dans le sens de Vimalakirti ou des Prajnaparamita, dira non, ces quatre éléments, ce n'est pas encore la fin de l'analyse. Ces quatre éléments, c'est encore s'arrêter au relatif. C'est-à-dire, tiens, parler de conscience, de facteurs mentaux, c'est encore s'arrêter en route. On n'a pas vraiment fini l'analyse. Là, il y aura une nuance qui sera assez importante.